tous et bienvenue autour de votre grande table dans l'actualité des idées. Aujourd'hui, l'enquête historique de Véronique Blanchard sur le traitement judiciaire des adolescentes après la libération. Perçues comme de mauvaises filles, vagabondes, voleuses, vicieuses, paraît aux éditions François Bourin. Une justice sexuée, l'héritage est-il vraiment totalement liquidé? Nous lui poserons la question à partir de 12h55. Mais d'abord, l'histoire un peu folle du Maharaja d'Indore, entre tradition locale et modernisme occidental, dans l'entre-deux-guerres. À son retour d'Oxford où il a étudié, le jeune Yeshwan Rao Holkar se fait construire un palais aussi magnifique qu'avant-gardiste. On en parle avec nos invités Raphaël Billet et Louise Curtis, les deux co-commissaires de l'exposition Moderne Maharaja, à voir jusqu'au 12 janvier au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On est ensemble jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Elles ont mené l'enquête sur ce Maharaja extraordinaire qui a fait construire son palais au tournant des années 20 et des années 30. Ce Maharaja dont on parle aujourd'hui et dont une exposition à voir à Paris au Musée des Arts Décoratifs retrace le projet fou et l'ameublement aussi très particulier de cet endroit. Louise Curtis, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Raphaël Billet. Merci
bonjour.
À toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été une longue enquête d'abord pour vous deux de réussir à retrouver une grande partie des pièces qui sont aujourd'hui présentées dans l'exposition et qui se trouvaient dans ce palais, parce qu'on imagine qu'à sa mort, dans les années 60, l'ensemble de ces biens vont être à un moment ou à un autre dispersés. Ces collections vont aussi intéresser beaucoup de personnalités et elles vont probablement aussi voyager.
Oui, effectivement, ça nous a pris... C'est une exposition déjà qui a été lancée à l'initiative d'Olivier Gabé, notre directeur, qui nous a proposé ce sujet. Puis effectivement, il a fallu qu'on fasse une enquête de 3 ans et demi pour identifier où pouvaient se trouver les différentes pièces du palais, notamment, et aussi réécrire l'histoire un petit peu de ce projet, de comment, quel avait été le processus et les acteurs principaux.
3 ans et demi d'enquête, ça veut dire que vous êtes allé un peu partout à la recherche de ces pièces.
Oui, tout à fait, surtout en Allemagne, à Berlin, où on a travaillé de près avec la famille en fait de l'architecte du palais Eckhard Mutesius. Et grâce à ces recherches, on a pu mettre en lumière des documents inédits, des œuvres qui n'ont jamais été vues par le public.
Fine moustache, cheveux coiffés en arrière, les doigts fins et costume taillé au cordeau, on le voit sur des photographies de lui, notamment des photos prises par Man Ray. Un Maharaja dandy qui a visiblement le goût des belles choses. Comment décrire sa personnalité, son tempérament, Louise Curtis?
Nous avons remarqué avec Raphaël que c'était une personnalité très cosmopolite, très ouverte sur l'international. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il a été éduqué en Angleterre, puis il a beaucoup voyagé en Europe, en France plus particulièrement. Et c'est effectivement à travers des personnalités phares comme Henri-Pierre Rocher qu'il rencontre le photographe Man Ray, qui va faire ces portraits assez incroyables de lui et de son épouse.
Vous voyez quoi, vous, sur les photos, Raphaël Billet?
Quelque chose de très intime en fait et de très moderne à la fois, c'est tout ce qu'il souhaitait, hein. C'est-à-dire quoi, se voir représenter de la manière la plus avant-gardiste comme la vie qu'il souhaitait mener et le décor qu'il va créer dans son palais, à savoir que ses portraits étaient destinés uniquement à un usage intime en réalité, donc il pouvait s'autoriser cette liberté.
Donc ses photos en robe de chambre par exemple.
Exactement.
Il est extrêmement séduisant et sa personnalité était comme telle. Qu'est-ce qu'on sait de lui exactement, de l'homme? Est-ce qu'il était un peu fou, un peu audacieux aussi, comme on peut l'imaginer à travers l'ameublement de ce palais? Ça nous dit quelque chose de lui?
Effectivement, on sait peu de choses sur lui puisqu'il n'y a pas vraiment de témoignages à part quelques courriers dans lesquels on peut percevoir un petit peu sa volonté. Néanmoins, il est clair qu'il était extrêmement audacieux puisque même s'il s'entourait de plusieurs conseillers, on voyait à travers les demandes qu'il faisait très précises et les exigences qu'il avait un avis propre et une idée très précise de ce qu'il souhaitait et que ses choix ne pouvaient pas être faits sans son accord profond.
Alors il est le fruit, lui, l'enfant d'une double culture indienne et européenne. Il faut rappeler que l'Inde est une colonie britannique jusqu'en 1947. Il a étudié aussi en Grande-Bretagne. Donc il revient avec tout ce savoir et ce savoir-être, savoir-faire qu'il a pu glaner ici et là en Europe. Il y a quand même des personnalités très vite qu'il va rencontrer et qui vont l'aider à faire mûrir son goût. Et notamment son mentor, Marcel Hardy, qui va ensuite le présenter à l'architecte allemand que vous citiez à l'instant, Raphaël Billet, Eckhart Muthesius, et à l'écrivain français Henri-Pierre Rocher. À cette époque, comment est la tendance en Europe, Raphaël?
Vous voulez dire pour le...
Dans les années 20.
Pour l'architecture?
Oui, architecture.
Alors il y a le développement effectivement, notamment à l'école du Bauhaus, de tout un mouvement d'architecture contemporaine, et parallèlement de mobilier issu de ces architectes en tube par exemple. Et en France, la période Art déco qui a démarré dans les années 10, en fait, a continué à se développer au courant des années 20, avec également le développement d'un mobilier métallique, mais qui prend une forme un petit peu différente. Et donc, effectivement, le Maharaja va être sensible, en fréquentant les salons, à toute cette modernité et va avoir envie de choisir ce mobilier pour son nouveau bâtiment.
Et à cette époque, la tendance naît en Europe, le cœur de la modernité est là, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Manigbach, ce sera donc le nom de ce palais qu'il va se faire construire et qui sera à son image, qui sera à l'image de son couple moderne en tout point.
Oui, tout à fait. C'est un palais qui est construit entre 1930 et 1933 pour le couple. C'est-à-dire que c'est un palais à usage privé essentiellement. Donc c'est un palais assez particulier puisqu'on connaît la version photographiée qui est diffusée dans la presse à l'époque. Donc on voit un palais au toit plat avec des fenêtres en longueur, donc tous les codes de la modernité architecturale de la période. On a découvert dans les archives qu'en fait ce palais a été finalement retouché par la main de l'architecte sur ces tirages, puisque ce toit plat n'existe pas. Il a un toit en tuiles classique avec une charpente permettant en fait au palais de résister à la saison des pluies. Et puis néanmoins, ce palais reste extrêmement moderne de par sa fonctionnalité. Il a des vitres teintées pour résister aux rayons du soleil. Il a de l'air conditionné. Il est d'ailleurs le premier palais à être doté d'air conditionné en Inde. Et il est doté également d'un mobilier extrêmement fonctionnel. Et moderne.
Et c'est quoi un mobilier moderne dans les années 30? On voit dans l'exposition l'apparition de nouvelles matières nobles presque, dans cet écrin que sera ce palais Manigbach. Le cuir synthétique, le métal, le verre et une armée de créateurs qui sont mobilisés pour repenser, voire penser tout court cet intérieur.
Tout à fait. En fait, à l'époque, effectivement, vous soulignez le cuir synthétique qui, aujourd'hui, on a un regard un peu différent sur ce matériau, mais à l'époque, beaucoup de créateurs issus de l'avant-garde ou représentants de l'avant-garde, l'employé trouvait que c'était le nec plus ultra puisque c'était très hygiénique, imputrescible, ce qui était intéressant en Inde, dans un palais où le climat, en fait, est quand même pas très favorable aux matières organiques. Et donc, c'est une des explications. C'est que effectivement c'était les matériaux de l'innovation.
Quelles sont vos pièces préférées à l'une et à l'autre qui sont présentées actuellement dans l'exposition? On peut citer notamment, pour comprendre un peu ce qui se jouait là, la fameuse chaise longue signée Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, recouverte d'une peau de léopard. On voit cette double culture dans l'objet même, dans le mobilier même apparaître. Pour vous, Louise Curtis, votre pièce?
Alors c'est une favorite. Question qu'on nous pose assez souvent, on a toujours
Désolée,
du mal à y
pas
répondre.
Très
Bon, déjà, on est toujours attiré par les photographies de Man Ray qui sont assez spectaculaires. Mais néanmoins, il y a également le grand tapis de Yvan da Silva Bruns, en fait, qui est dans le centre de la nef, qui fait 6 mètres de long, qui est assez impressionnant de par sa taille, mais aussi de par son esthétique. Il est composé de formes géométriques, comme des grands aplats de couleurs, qui ornaient, en fait, la chambre du Maharaja à l'époque. Donc, ça illustre un peu cet intérêt pour l'avant-garde. Donc, voilà. voilà, je dirais que cette pièce-là en particulier est une des pièces que je trouve particulièrement belle.
Raphaël Billet.
Alors après, c'est vrai que c'est difficile de choisir. J'avoue avoir un petit faible pour les luminaires des cartes Moutessus qui sont particulièrement étonnants et qui vraiment sont très novateurs, nous annoncent plus ce qui va se passer dans les années 50 d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est j'ai un petit faible. Après, j'avoue que le Transat d'Hélène Gray est quand même une pièce magnifique et que comme la chaise longue de Le Corbusier, Perrien Jeanneret, c'est une des icônes du design moderne. Mais effectivement, il les a achetés au moment de leur confection ou peu d'années après leur réalisation.
Et le mot d'ordre pour lui, à l'époque en tout cas, dans sa manière de concevoir cet intérieur aussi, puisque vous disiez qu'il avait aussi son mot sur tout, et il aimait avoir son mot à dire, c'était de surprendre, c'était d'être à l'avant-garde, ou c'était quand même aussi de créer un intérieur confortable, c'est-à-dire fonctionnel et confortable, désirable.
On pense en fait, c'est vrai qu'il visite le studio de Jacques Doucet grâce à Henri-Pierre Rocher et lors de cette visite où effectivement il voit une collection mise en scène avec des intérieurs spéciaux conçus par les plus grands artistes où vraiment la modernité est mise en avant. On pense que ça l'a beaucoup influencé et qu'il a du coup décidé de faire un petit peu la même chose même si c'est pas avec la même collection par exemple. Donc c'était effectivement quelque chose de une volonté d'être moderne dans le décor, dans tous les éléments du décor.
Louise Curtis, vous citiez les photos de Man Ray qui sont très particulières. Alors à la demande du Maharaja, il faut savoir que Man Ray va réaliser ses portraits dès 1927, notamment lors des séjours du couple, dans la résidence d'été, leur résidence d'été sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces portraits? Je vous propose d'écouter d'abord la voix de Man Ray et je vous redonne la parole juste après.
On peut voir tout ce qu'on veut dans mes photos, comme on peut voir tout ce qu'on veut dans ma peinture. Plus il a des interprétations d'une œuvre, plus c'est réussi, je crois. Et même s'ils se contredisent, parce que ça ne change rien à l'œuvre elle-même. Les critiques, je m'en moque quand ils m'attaquent, n'est-ce pas? Soit dans la peinture, dans l'écriture, dans la photo. Je dis, mais votre critique ne sert à rien, c'est trop tard. Le mal est fait. On lit maintenant encore aujourd'hui des écrits de Delacroix ou de Cézanne, mais on a oublié ce que les critiques ont dit sur eux de leur temps.
Pourquoi il était critiqué à ce moment-là, Man Ray? En quoi ses photographies étaient jugées et perçues comme audacieuses?
C'était un artiste assez subversif, hein, un artiste pluridisciplinaire qui appartenait au groupe de l'avant-garde surréaliste et dadaïste. Donc il aimait renverser les codes, notamment du portrait. Donc pour le Maharaja et la Maharani, c'est d'ailleurs assez présent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Man Ray avait un studio photo où il recevait des grands du milieu mondain de la période. Donc même s'il était dans une volonté de renverser les normes instituées, il restait aussi un portraitiste en vogue, très prisé, avec parfois une esthétique plus classique. Et ce qui est intéressant dans les portraits du Maharaja et de la Maharani, c'est qu'on voit ces deux aspects-là. On les voit en train de poser de façon conventionnelle et on les voit aussi en train de poser pour le photographe de façon complètement nouvelle, avec la tête renversée, allongée sur le sol.
Vous disiez renverser les codes, c'est au sens propre et figuré. Hein.
Tout à fait, exactement.
Et c'est cette fameuse photo que vous avez mis aussi, choisi de mettre en couverture du catalogue et qui fait la photographie de l'exposition, où on voit le couple peut-être raconté assis, lui, elle, la tête renversée sur son épaule, arrivant à l'arrière en fait. Hein.
Non, c'est vrai que c'est assez audacieux. Hein. On s'en est rendu compte quand on l'a soumis un peu à l'équipe, en fait, où on a vu que pour eux, ils trouvaient que c'était peut-être un petit peu audacieux comme photo, puisque très intime. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment réalisé que, effectivement, c'était une façon très nouvelle de photographier les gens.
Si ça paraît encore audacieux aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça l'est plus vraiment.
Un peu moins. En tout cas, c'est une photo extrêmement douce et gracieuse hein, qu'il avait réalisée là, en noir et blanc, bien sûr.
On ressent vraiment leur intimité, en fait, dans ces images, et c'est ça qui nous a vraiment touchés, en fait.
Moderne Maharaja, c'est le titre de cette exposition à voir jusqu'au 12 janvier au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi. On part tout de suite en musique en Inde, mais en Inde d'aujourd'hui.
सिमट से निकला गुलाब ऐतिहासिक किताब हर हल का जवाब सच हुए मेरे ख्वाब वफादार खबरदार होशियार गली गैंग सबसे हार परिवार कोई मसले में अटके फिर सब जिम्मेदार खासली में फटके फिर सब तड़ी पार गिने चुनके है दोस्त बाकी सांपों को कटार जब तक फोटो पे ना हार तब तक ग्राइंड करे शाइन करे जो करना है करे तेरे माइंड पर है छोटे सारा लाइन पर है जबरदस्ती का जोश छोड़िए नकली तू बीफ तू असली में घोष तू खाना मेरा दोस्त यहाँ नकली है फेमस क्या जमाना मेरा दोस्त चल माचिस ये है पूरा पूरा ज्वाला मेरा दोस्त तू पालतू मेरे गानों ने पाला मेरा दोस्त लावा लावा स्पिट गेम प्रॉपर वॉइस फ्रॉम द नॉक ऑफ फाइव नाइन ईस्ट साइड ऑफ अंधेरी के मेरे फैंस रॉयल ओपरा से गेटी पे जूलियस पक्का और जेडी है मेरे कॉलेज वाले दोस्त एमसी शेर मोइन मुराद सब सॉलिड मेरे दोस्त राशन कार्ड वाले शूटर मतलब फॉरेन वाले दोस्त मतलब एक कॉल पे सीधा सीधा आने वाले दोस्त तीन अली बाबा और 40 मेरे दोस्त कोयले में हीरे का बसेरा टेढ़ी वाली सोच सूरज चांद अपने फेवर में गेड़िया लगा रहे असल जिंदगी में टफ सिपड़ियों में ना आ रहे ग्रेट खली है ये रैपर सिर्फ बड़ियों में ये हार्ड है शॉर्ट सीधा सरफेस को देसी तो पिला रहे चकने में चिकन नहीं आंख एरिया खिलाते पेप्सी पे बड़े हुए जो थैलियों में आते सातवीं से सात दोस्त अभी भी मेरे साथ है अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है कुछ नहीं था अब चार दिन बाद सब कुछ देखा मैं हर जगह बुक भगवत गीता जरूर वाला माल नहीं पीता शीशा मत भूलना छोटे तूने किससे सीखा डिवाइड फाइव नाइन बाय बाय हाय बाय ऑपोजिट से घोष्ट करण आर्मी नाइन एम एल सी कटाम सर्व चांगला ब्रो बांगड़ा फ्राई टिकटा मरो पोस्ट वाले लोग बॉस वाले कोड बचकाने छोड़ रास्ते में आए फटका के छोड़ रैप का किशोर भाई का ना तोड़ किसका ना लोड वन टू का फोर नहीं नहीं वन टू का क्रोर हाँ कोहे नूर कोहे नूर कभी झुके ना कभी रुके ना गैंग अभी वही कभी टूटे ना
कली गैंग Le rappeur originaire de Bombay, rappeur montant aujourd'hui, voilà, qui aurait peut-être plu à votre Maharaja s'il l'avait découvert et pro, il l'aurait programmé dans son palais avec cet album Kohinoor et ce titre sorti le 9 octobre dernier sur le label Mass Appeal Records de l'américain Nas Divine. C'est le groupe, le titre et le nom de ce groupe.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
L'exposition qui est à voir aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs à Paris, Raphaël Biet et Louise Curtis, est sous-titrée « Un mécène des années 30 ». Pourquoi le qualifier de mécène, ce Maharaja ? Est-ce qu'il avait une fondation ? Est-ce qu'il finançait directement la création ou sa diffusion ?
Alors non, c'est un titre... On l'a qualifié ainsi parce qu'en fait, il a vraiment joué ce rôle auprès des avant-gardes. C'est pas un rôle de mécène, je dirais direct, c'est un rôle indirect puisque c'est par c'est les commandes qui passent à tous ces artistes qui fait vivre l'avant-garde de cette époque qui a perdu certains grands commanditaires comme Jacques Doucet notamment, dont je parlais un peu plus tôt. Et effectivement, les artistes ont besoin de grands commanditaires pour que leur art perdure et donc il a vraiment joué ce rôle et c'est pour ça qu'on a eu envie avec cette exposition de le souligner.
Alors une autre manière de concevoir ce rôle, même époque pourtant, Charles et sa femme Marie-Laure de Noailles ont soutenu aussi l'avant-garde artistique, c'était entre Paris et hier. Écoutez Charles de Noailles sur son rôle de mécène.
La société mondaine était toute prête à se mêler aux artistes. Et ma femme avait envie de donner une fête ici, et nous avons pensé qu'il valait mieux faire ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire donner aux gens qui venaient un divertissement. Alors, nous avions commandé une musique, une espèce de petit ballet, à Francis Poulenc et un autre à Georges Auric, où un homme qui avait beaucoup de goût, qui s'appelait Jean-Michel Franck, avait fait les décors du fond tout en if et en buis, et vraiment des décors ravissants. Et je crois que ça a été une soirée réussie, nous en avons tous eu beaucoup d'amusement.
Voilà, à l'époque aussi, on commandait des musiques comme ça à Poulenc ou à Auric.
Là, c'est une autre manière de concevoir ce rôle, mais on était quand même, et ce qu'on comprend à travers ce témoignage aussi, dans une période où la société était très mondaine et les artistes contribuaient de cette petite société. Hein.
Oui, en tout cas, les Noailles, effectivement, sont un très bon exemple, hein, qui est assez parallèle tout en étant très différent, puisque leur implication a été beaucoup plus loin et a duré surtout beaucoup plus longtemps.
Hein. Ils ne se sont pas forcément croisés. Hein.
Non, on n'a rien trouvé avec Louise qui nous montrait qu'ils se sont croisés, mais ils devaient se connaître.
Revenir à ce palais et comprendre avec vous, est-ce que la manière dont il a été conçu, pensé à la fois par les architectes et les designers qui ont contribué à le décorer, est-ce qu'il a été pensé pour vous comme une œuvre totale, ce palais ? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a remarqué qu'il y avait un chef d'orchestre derrière ce projet qui était l'architecte lui-même, Eckhard Mutesius, qui a non seulement créé le palais, l'architecture du palais, mais aussi du mobilier fait sur mesure pour les intérieurs. Et il a également combiné à son travail des œuvres acquises par le Maharaja en Europe. Donc le Maharaja et lui travaillaient ensemble pour créer des espaces, des intérieurs harmonieux, pour que chaque intérieur ait une fonction, une identité propre.
Et Mutesius voulait vraiment en faire une pièce unique,
oui,
une œuvre unique. Vous parlez de la construction d'un mythe même. Hein.
Bah, c'est vrai que c'est un palais un peu mystérieux puisqu'il est à usage privé. Les seules photos qu'on a retrouvées en fait étaient soit des photographies en noir et blanc des années 30 en fait, qui étaient utilisées pour être publiées dans la presse, où on voit en fait une version noir et blanc du palais, où on voit pas le côté très coloré de ses intérieurs. Et c'est grâce à des tirages des années 70 qu'on a compris que c'était un espace intérieur pas si sobre que ça, même s'il a peu de choses sur les murs, mais extrêmement coloré, extrêmement lumineux.
Vous avez dans l'exposition retrouvé et réuni un certain nombre de pièces. Est-ce qu'il y avait pour vous l'envie dans la scénographie aussi de recomposer une partie du palais, cet intérieur si particulier ?
Alors, on avait abandonné cette idée parce que c'était quand même beaucoup trop ambitieux pour l'espace qui était à notre disposition. Néanmoins, dès qu'on a su qu'on pouvait reconstituer les chambres, par exemple, effectivement, on a choisi de reconstituer un tout petit peu certains espaces parce que ça s'y prêtait, mais effectivement, non, on fait plus une évocation. On a essayé d'évoquer à quoi pouvait ressembler ce palais, notamment le sol de la nef. Les deux scénographes de BGC Studio qui ont travaillé avec nous ont fait un travail exceptionnel pour nous aider à retranscrire justement cette couleur qu'évoquait Louise dans le palais grâce aux tapis, notamment d'A Silva Bruns, qui étaient des sortes de tableaux au sol au lieu d'avoir des tableaux au mur. Et c'est vrai que ça comptait beaucoup pour nous.
Elles sont où aujourd'hui toutes ces pièces quand elles ne sont pas en ce moment à voir donc au Musée des Arts Décoratifs? On sait qu'un certain nombre de collectionneurs et notamment de personnalités de la mode comme Yves Saint-Laurent avec Pierre Berger ou encore Karl Lagerfeld se sont intéressés à ce mobilier après la mort du Maharaja. Elles sont dans des collections privées aujourd'hui toutes ces pièces?
Oui, elles sont dans des collections privées. Il y a un de nos partenaires de l'exposition, notamment la Fondation Altani, a une grosse partie du mobilier du palais. Néanmoins, c'était très dispersé dans différentes collections internationales un peu partout dans le monde.
Pareil pour les bijoux, parce qu'on parle des mobiliers, mais il y a beaucoup d'autres choses.
Oui, c'est valable pour toutes les pièces de l'exposition. Donc c'était vraiment un vrai travail de recherche, de retracer un peu toutes ces pièces en fait qui étaient essentiellement dans des collections privées à travers le monde, effectivement.
Et le palais, il est devenu quoi aujourd'hui ? C'est un palais fantôme ?
Alors c'est vrai que c'est un peu triste. Le palais maintenant appartient au gouvernement et il est maintenant aménagé c'est un bâtiment administratif, donc il y a des bureaux à l'intérieur. On n'a pas le droit de le visiter à notre grand regret.
C'est les douanes en fait.
Oui.
Vous n'avez jamais pu vous y rendre.
Malheureusement non.
Malheureusement.
Vous avez un regret pour cette exposition. On se demande toujours quelle est la pièce manquante. Il y a une pièce que vous avez pu voir apparaître sur des photographies que vous n'avez pas réussi à retrouver dans cette grande enquête de 3 ans que vous avez pu mener pour reconstituer cet ensemble.
Je dirais que peut-être c'est le bureau du Maharaja que nous n'avons pas pu avoir pour l'exposition. Ce serait peut-être notre petit regret, mais néanmoins, on a obtenu de telles pièces pour l'exposition qu'on n'a pas vraiment de gros regrets, je dois dire. Enfin, je crois pas.
Non, tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est une exposition avec des histoires à tiroir, donc on ne cesse de découvrir de nouvelles choses. Donc, finalement, c'est peut-être le début d'une nouvelle recherche à faire sur ce sujet, qui sait.
Une question qu'on se pose en regardant aussi toutes ces pièces et ces photographies, notamment celle de Man Ray, qui raconte une fois encore ce couple au tempérament si particulier, parce qu'il a aussi pensé ce palais pour cette femme qu'il aimait visiblement follement. Est-ce qu'ils sont restés ensemble tout le temps? Est-ce que ce couple a vécu aussi longtemps que le palais? Est-ce que vous êtes intéressé à leur histoire?
Effectivement, c'est vu que tout était lié à ce couple finalement assez fusionnel, c'est vrai que lorsque la Maharani décède en 1937, malheureusement tout s'arrête. Les commandes auprès des créateurs cessent à ce moment-là. Et donc c'est le début d'un nouveau chapitre où du coup le Maharaja va continuer à vivre dans le palais mais ne va pas continuer à l'aménager comme il le faisait avec son épouse.
Il a continué à circuler beaucoup entre l'Inde et l'Europe où il s'est replié sur son palais.
Oui, il va continuer à circuler. Surtout il va se marier avec une américaine, une première américaine puis une seconde américaine. Et donc effectivement il partage sa vie entre l'Inde et les États-Unis et l'Europe en fait, mais il va cesser toute activité de collection, en tout cas identique à celle qu'il avait avec son épouse auparavant.
Voilà, c'est le moment où le Maharaja va aussi s'ouvrir aux tendances américaines, alors peut-être, et délaisser un peu les grandes tendances européennes qui ont fait à ce moment-là aussi la particularité de cette collection que vous pouvez découvrir jusqu'au 12 janvier au Musée des Arts Décoratifs à Paris, ou à travers ce très beau catalogue que vous consacrez à cette personnalité, à ce mécène, à ce couple aussi moderne Maharaja. Édité par le musée, les éditions MAD. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Raphaël Billet et merci Louise Curtis d'avoir été avec nous. À suivre dans la grande table à partir de 12h55, l'historienne Véronique Blanchard qui nous rejoindra pour son enquête historique sur les adolescentes dans l'après-guerre, vagabondes, voleuses, vicieuses. Véronique Blanchard sera avec nous à partir de 12h55.